Et le grand amour 2.0 donc, avec les rencontres sur Internet qui se multiplient et les Français qui sont de plus en plus nombreux, visiblement, à considérer aujourd'hui Internet comme un lieu banal où trouver l'âme sœur. Les sites de rencontres qui ont le vent en poupe et qui attirent un public hétéroclite font désormais figure de passage obligé dans la quête d'un partenaire. Le dossier de La Tête au Carré s'intéresse donc aux rencontres amoureuses sur le net, en partenariat avec le magazine Le Cercle Psy, pour comprendre pourquoi des milliers de personnes privilégient les technologies pour se rencontrer. J'attends vos messages et bien sûr vos témoignages sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. C'est une première mondiale, la naissance d'un bébé à trois parents, et c'est aujourd'hui à la une de la science, Axel Villard. Qui dit mieux?
Bonjour Mathieu. Bonjour. Oui, c'est étrange. Hein. C'est un bébé présenté hier, mais né il y a quelques mois grâce à une méthode d'assistance à la reproduction très controversée et interdite en France. Les explications et les inquiétudes du biologiste Jas Testard. Dans un instant, à la une de la science, pardon.
Stéphanie Texier réalise cette Tête au Carré qui a été préparée par Lucie Sarfati avec Mahmoud Mebarek.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les rencontres amoureuses sur Internet, c'est donc le dossier de l'émission dans un instant. Mes invités, les journalistes Anne-Claire Thérisol et Jean-François Marmion, avec moi en studio. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et en duplex des studios de France Bleu Bourgogne à Dijon, le professeur en sciences de l'informatique et de la communication Pascal Lardelier. Bonjour.
Oui, bonjour.
Les rencontres sur Internet, le degré zéro de l'amour. Est-ce le degré zéro de l'amour? Dossier donc avec le Cercle Psy, Jean-François Marmion, Anne-Claire Thérisol. Ces rencontres sont loin d'être marginales, visiblement aujourd'hui. Elles font partie, Jean-François Marmion, des modalités amoureuses?
Tout à fait, c'est un nouveau vecteur de rencontres, si on veut. Il y avait les concerts, il y avait les facs, il y avait la rue.
Oui.
Et maintenant, il y a un nouvel espace qui s'appelle Internet, qui est certes différent. Et je pense que le tout est de ne pas se contenter de cet espace-là.
Bon.
C'est un espace parmi d'autres.
Très bien, on verra. Anne-Claire Thérisol, vous avez testé justement, je crois, ces sites avant d'écrire l'article. Est-ce que vous avez été convaincue de leur efficacité?
Alors, ça dépend de quelle efficacité on parle.
Quelle est la fin de l'histoire?
Ça peut être très très efficace, effectivement, pour ceux qui cherchent la rencontre, l'aventure. Après, mm-hmm. pour ceux qui cherchent le grand amour,
c'est ça.
Il y a beaucoup à dire.
Pour le durable, c'est plus compliqué.
Absolument.
On le verra ensemble. Pascal Lardelier, sur quoi repose principalement le succès de la rencontre amoureuse virtuelle, au fond, aujourd'hui?
Eh bien, en fait, je pense que ça repose sur le fait que ça hyper-rationalise la quête amoureuse, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu, et je pense qu'on en reparlera un peu plus tard, dans un supermarché avec des produits. Il y a d'ailleurs un site Adopte un mec, hein, qui détourne les codes des courses en supermarché. Donc, dans un premier temps, ça hyper-rationalise. Et puis, d'un autre côté, c'est très, très ludique, en fait. On est dans une espèce de toute-puissance à faire défiler les profils, à jeter, à garder, à liker. Donc, il y a ce double aspect de rationalisation et puis, d'un côté, très, très ludique qui fait à mon avis, qui explique en grande partie le succès des rencontres en ligne.
Voilà, l'amour 2.0 dans le dossier avec les messages et les témoignages des auditeurs sur le site de l'émission. Et depuis l'annonce faite hier par le New Scientist de la naissance au Mexique d'un bébé à trois parents, eh bien les spécialistes de la question s'agitent et les réseaux sociaux également. Jacques Testard, vous êtes en ligne avec nous, bonjour. Vous êtes biologiste, président d'honneur de la Fondation Sciences Citoyennes et vous avez été, je le rappelle, le premier en 1982 à permettre la naissance du premier bébé prouvé être français, Amandine. Ce bébé-là qui fait aujourd'hui la une de l'actualité, est-ce qu'il a réellement trois parents?
Tout dépend. Écoutez, Amandine avait deux parents et c'était pas nous, hein, c'était pas les techniciens qui avaient travaillé dessus. Donc, je trouve que c'est bien, c'est très médiatique, mais cet enfant, dans le meilleur des cas, il vivra bien avec deux parents, mais c'est pas sûr.
Mais d'un point de vue génétique, qu'est-ce qui se passe dans son ADN à ce bébé?
Il faut rappeler qu'il y a deux types d'ADN, enfin, il y a deux lieux où on trouve l'ADN dans toutes les cellules. Il y a le noyau, donc c'est l'ADN dont on parle en général et qui code pour énormément de caractères. Et puis, il y a, en moindre proportion, l'ADN qui est dans des organismes, des petits organismes qui sont dans toutes les cellules, qu'on appelle les mitochondries, et qui sont un peu les usines à énergie des cellules, mais qui ont un rôle important aussi, en particulier qui peuvent, en cas de mutation de leur ADN, provoquer des maladies très graves. Alors c'est le cas de cette femme, qui donc a demandé qu'on enlève en gros les mitochondries de son ovule pour les remplacer par les mitochondries d'une autre femme, supposée normale, pour éviter d'avoir un enfant malade.
C'est en ça qu'on parle de trois ADN, celui du père, celui de la mère et celui de la donneuse de mitochondries.
Exactement, mais je crois qu'on devrait parler de 4 ADN d'ailleurs.
Allons bon.
Parce que quand on regarde l'article, on s'aperçoit qu'il y a quand même 5% des mitochondries de la mère qui sont passées dans le bébé. C'est-à-dire quand on transplante les chromosomes, en même temps on emmène, on pollue un peu et on emporte quelques mitochondries. Et dans le bébé lui-même, apparemment, il en reste 1,6%. Donc c'est pas beaucoup. Mais malgré tout, ça, quel ménage ça va faire avec les mitochondries majoritaires? Est-ce que ça va pas provoquer encore des problèmes? Donc on peut dire qu'il y a 4 ADN dans cette affaire.
C'est une technique complètement nouvelle qui a été testée sur des animaux. D'où est-ce qu'elle sort?
Alors c'est une technique qui a été testée même chez l'homme, mais il y a deux façons de faire. Soit on transplante le noyau qui se forme à partir de l'ADN de la femme dans la fécondation, après la fécondation, on peut le transplanter dans un ovule étranger. Soit, c'est ce qui a été fait là, on transplante les chromosomes avant la fécondation. La différence, c'est que ces chromosomes, ils sont pas enfermés dans un sac, dans le noyau, mais ils sont posés en équilibre sur ce qu'on appelle le fuseau méiotique, c'est-à-dire un ensemble de fibres élastiques qui vibrent beaucoup et qui est très instable. Autrement dit, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des chromosomes, par exemple, qui quittent ce fuseau et qui ne soient pas transplantés. Et donc à avoir un nombre de chromosomes anormal dans l'embryon qu'on fabrique. C'est d'ailleurs ce qui arrive, puisque, si j'ai bien lu dans l'article, ils ont 4 embryons et il y en a 3 qui sont anormaux, c'est-à-dire qui ont un nombre de chromosomes anormal. Donc il y en a un seul qui semble normal pour ce qui est du nombre de chromosomes. Ce qui n'était pas le but. Donc on voit qu'il y a là un premier problème, c'est quand même de créer ce qu'on appelle des aneuploïdies, c'est-à-dire des bébés avec un nombre de chromosomes anormal. On peut prendre le cas des trisomies par exemple, mais il y en a d'autres. C'est fâcheux quand même.
Jacques Testard, on a un courriel de Céline là, qui vous écoute et qui nous dit ceci. J'avais lu il y a quelques années que le remplacement mitochondrial avait déjà été pratiqué plusieurs fois aux États-Unis dans les années 90. La technique est-elle vraiment si différente aujourd'hui et pourquoi annoncer cela comme une première alors que visiblement ça n'est pas le cas?
Oui, non mais là effectivement parce qu'on a toujours besoin, enfin disons que les chercheurs ont toujours besoin de premières et donc c'est une première dans le sens où ils ont transplanté donc les chromosomes. Ce qui a été fait aux États-Unis, c'est un échange de mitochondries. C'est-à-dire on enlève les mitochondries de l'ovule, celles qui sont malades, et on les remplace par des mitochondries qu'on a pris dans un autre ovule. Ça a été fait aux États-Unis, donc c'est le transfert du cytoplasme et non pas des chromosomes. Et ça a produit des bébés dont beaucoup ont eu des anomalies. Pardon ?
Je disais, ça paraît quand même étrange qu'on parle aujourd'hui d'une technique qui pose des problèmes, selon vous, alors qu'il y a déjà un bébé qui est né et qui va sûrement grandir.
Ça paraît étrange, c'est-à-dire c'est très audacieux, c'est l'apprenti sorcier, quoi. Oui, c'est effectivement assez étrange, et je ne sais pas s'il y a beaucoup de scientifiques, généticiens ou biologistes qui approuvent ça. Moi, je trouve que c'est absolument fou de faire des choses pareilles.
Est-ce que cette technique a été testée sur les animaux avant d'être appliquée sur l'homme, Jacques Testard ?
Les Espagnols ont fait ça chez des souris et ils ont eu des problèmes, ils ont eu des altérations sur les souriceaux. Donc, à ma connaissance, l'expérience animale ne permet pas de passer à l'expérience humaine parce qu'il y a des anomalies qui ont été révélées. Et c'est pas tellement étonnant, je vous dis, il y a déjà deux choses qui sont visibles là dans cet article. Il y a quand même qu'on crée un nombre de chromosomes anormal dans la majorité des embryons. Et il y a qu'on fait passer quand même ces mitochondries dont on veut se débarrasser, il y en a quand même qui viennent avec les chromosomes et qui se retrouvent dans l'embryon. Donc ça fait quand même au moins deux types de problèmes qu'on ne peut pas nier.
On va écouter un petit extrait de John Zhang qui est le professeur à l'origine de cette naissance.
This is Dr. John Zhang.
En effet, c'est révolutionnaire. Cette maladie mitochondriale est généralement dévastatrice pour les bébés et leurs familles. Mais cette technique doit être utilisée d'une façon très responsable.
Qu'est-ce que ce serait une utilisation responsable alors de cette technique?
Vous le demandez. Je vois pas. Je vois pas ce que c'est une utilisation responsable de quelque chose qui est de l'acrobatie. Et dans lequel il y aura sûrement des enfants normaux, mais il y aura sûrement des enfants anormaux. Donc on peut dire qu'il n'y a pas d'autre façon pour ces couples d'avoir un enfant. C'est juste, mais peut-être que la seule façon de réagir alors, c'est de faire le deuil de l'enfant, d'en adopter un, de faire autre chose. Parce que c'est quand même, il faut mettre quand même des limites un peu à toutes les technologies.
Jacques Testard, lorsque justement dans les années 70, vous avez travaillé sur la première fécondation in vitro, est-ce que vous vous posiez les mêmes questions ?
Pas du tout. Pas du tout. On n'avait pas encore inventé la bioéthique. On veillait simplement à informer les patients qu'on ne savait pas grand-chose et qu'il y avait des risques. Et on obtenait leur consentement assez facilement parce qu'ils étaient prêts à tout. Et donc, c'était les meilleures pratiques possibles. Mais on ne parlait pas du tout de bioéthique et personne ne réfléchissait dans la société. D'autant que personne ne savait vraiment ce qu'on bricolait dans d'autres coins. Donc, on était très libre d'action. Il fallait poser les barrages nous-mêmes.
Ici, le professeur Zhang est allé au Mexique parce que c'est interdit aux États-Unis. Est-ce qu'il y a d'autres pays dans le monde où ce genre de pratique serait autorisé ?
Oh, j'imagine qu'il y a énormément de pays. Je pense qu'en Asie, il y a beaucoup de pays où on pourrait faire ça.
Jacques Testard, merci beaucoup en tout cas pour votre éclairage sur cette question qui, on l'a compris, effectivement suscite beaucoup d'interrogations éthiques. Merci beaucoup, puis on se retrouvera prochainement sur l'antenne puisque vous allez sortir un ouvrage dans les semaines qui viennent. Merci Axel.
J'avais sorti un ouvrage il y a 2 ans qui s'appelle « Faire des enfants demain » et où je traite en particulier de ce problème.
Eh bien voilà, donc on peut le retrouver encore. À bientôt Jacques Testard, merci beaucoup et Axel, à demain.
À demain.
Allez, dans le reste de l'actualité scientifique, depuis l'annonce faite hier par le New Scientist, et bien ça je vous l'ai déjà dit, selon l'OMS, voilà, c'est la bonne brève, 9 personnes sur 10 dans le monde respirent un air de mauvaise qualité. Pour la directrice du département santé publique de l'organisation, une action rapide pour faire face à la pollution atmosphérique est nécessaire et urgente. Ce rapport s'appuie sur des données provenant de 3000 lieux à travers le monde. Il conclut que 92% de la population mondiale vit dans des endroits où l'air ne correspond pas au niveau fixé par l'OMS pour les particules fines dont le diamètre est inférieur à 2,5 microns. Des polluants comme le sulfate, les nitrates et le carbone noir qui pénètrent le système cardiovasculaire et représentent un risque grave pour la santé humaine. Le 10e gène du virus du sida recherché depuis plus de 20 ans vient d'être identifié par des chercheurs français. Prouesse technique a été rendue possible grâce à une nouvelle approche bioinformatique permettant de comparer 23 000 séquences du virus du sida chez l'homme et le singe. Si les scientifiques ont eu autant de difficultés à confirmer l'existence de ce 10e gène, c'est tout simplement parce qu'il chevauche en partie un autre gène codant pour l'enveloppe du virus. Bien qu'il soit maintenant identifié, les chercheurs avouent ne pas savoir comprendre le rôle exact de ce 10e gène du virus du sida. Et puis quand le soleil se couche, eh bien les arbres également s'endorment. Cette drôle de découverte nous vient d'une équipe de chercheurs européens qui a remarqué un léger affaissement des branches des feuillus la nuit venue. Mesurée pour la première fois sur une espèce de bouleau à l'aide de lasers de précision, ce mouvement cyclique peut atteindre 10 cm, bien que les raisons de cet assoupissement ne soient pas parfaitement comprises. Ces oscillations nocturnes sont certainement liées à des fluctuations dans la quantité d'eau et sa pression dans les branches. Mieux comprendre les cycles d'activité végétaux pourrait aider les sociétés forestières à mieux planifier leur période d'exploitation. Et l'amour 2.0, c'est dans un instant. So many heartbreaks. So little time Too many tragedies Too many crimes Put on your body armor Prepare your alibi Cause there is no one else Gonna put it right To the rescue Down the streets and alleyways Past the Chinese takeaways Through the wind and driving bed I looked for marriage
but I'll march behind you. Wherever you may go, and I'm more proud of you than you can ever know. To the rescue, through the snow and freezing rain, down deserted country lanes, round the world and back again, to the rescue, taking the forgotten ones, big and small, the old.
C'est Thierry Dupin qui signe la programmation musicale de La Tête au Carré avec à l'instant le retour de Divine Comedy avec To The Rescue.
La Tête au Carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
L'amour 2.0 avec mes invités cet après-midi. Pascal Lardelier, vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes avec nous en duplex des studios de France Bleu Bourgogne à Dijon. Et vous avez publié par exemple Les réseaux du cœur, sexe, amour et séduction sur le net en 2012 chez François Bourrin. Anne-Claire Thérizol, vous êtes journaliste community manager et vous avez eu l'idée de cet article dans les pages du Cercle Psy après avoir vous-même testé les sites de rencontres. On a déjà envie d'en savoir plus. Et puis Jean-François Marbion, vous êtes le rédacteur en chef du Cercle Psy. Que disent les enquêtes d'abord pour commencer, avant de répondre aux questions des auditeurs qui arrivent déjà très nombreuses, sur les Français et l'amour sur Internet, Anne-Claire Thérizol, puisque vous avez enquêté.
Alors, les études disent, en fait, la dernière étude de l'INED, donc Institut National des Études Démographiques, dit que sur les personnes qui se sont rencontrées depuis 2005 et qui sont encore ensemble en 2016, 9% seulement se sont rencontrés sur les sites internet. Donc les vrais endroits où on se rencontre, ça reste en priorité le travail, on se rencontre chez des amis, etc. ou ailleurs. Bon. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui vont sur internet parce que on n'a pas le temps, on vit dans une vie qui est extrêmement rapide, une vie de consommation, une vie d'accélération de tout. Donc effectivement, la tentation d'aller sur internet est de plus en plus importante et les copains vous aident à...
C'est ce qu'ils ont fait avec vous d'ailleurs.
C'est ce qu'on a fait avec moi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous dites j'en ai marre d'être seule, etc. Et toutes les copines, les copains, ah mais tout le monde connaît des gens qui se sont mariés, qui ont des enfants ou pas mariés, pas d'enfants, mais qui ont rencontré un amour fou sur Internet. Donc même si on n'y croit pas à la base, on se dit bon allez, j'y vais, je vais pas mourir plus bête. Bon, on y va. Et là effectivement, il faut être un tout petit peu armé pour utiliser entre guillemets ces outils parce que ça reste un outil,
qui peut être
extrêmement dangereux, qui peuvent blesser, parce que curieusement, derrière un écran, oui, on peut tomber amoureux, oui, on peut avoir des vrais coups de cœur, après, on se rencontre, on se rencontre pas, on peut rester des années et des mois derrière un écran sans jamais rencontrer, ce qui peut être assez flatteur, mais très souvent, le passage à la réalité est un tout petit peu déconcertant.
Pascal Lardelier, en tous les cas, on a vraiment le sentiment, et ça aussi, ça ressort visiblement des enquêtes d'opinion, que ces sites de rencontres sont bien acceptés aujourd'hui par les Français, hein.
Alors oui et non, on peut dire qu'on est vraiment face à un phénomène de société puisqu'il y a des millions de personnes qui directement ou indirectement fréquentent ces sites. Et puis empiriquement, nous connaissons désormais tous des couples qui se sont constitués finalement grâce à ces sites de rencontres. Néanmoins, même si c'est accepté par certaines catégories des populations qui les fréquentent et notamment les trentenaires technophiles, je persiste à penser, les études le prouvent aussi, qu'il y a quand même une réticence de la part de certaines des personnes qui fréquentent ces sites à l'accepter et à finalement l'admettre et le dire. Hein. Et c'est vrai qu'il y a peut-être en France bien l'aura encore sulfureuse du Minitel rose. Et puis, on a un petit peu l'impression finalement qu'être sur ces sites, c'est chercher des relations au rabais, c'est être quelque part handicapé social ou relationnel. Et oui, c'est accepté dans les faits, parce que je le répète, beaucoup de gens se rencontrent sur ces sites et les fréquentent. Mais néanmoins, en déclaratif, dès qu'on fait une enquête, on s'aperçoit que les couples qui se sont constitués dessus, pour certains d'entre eux, eh bien, préfèrent le cacher, puis réinventer une histoire et dire qu'on s'est rencontrés ailleurs, finalement.
Alors, c'est pas le cas de tout le monde, parce qu'on a ce témoignage de Mathieu qui nous écrit, nous dit « Rencontré sur un site il y a 3 ans, nous attendons notre premier enfant avec ma compagne, ce n'est plus tabou, et lorsqu'on nous demande comment nous nous sommes rencontrés, eh bien, nous ne mentons pas, Jean-François Marmion. »
Eh bien, c'est très bien. J'ai envie de dire que c'est plutôt l'exception qui confirme la règle. Très souvent, il y a des couples qui ne durent pas. Par exemple, je crois qu'il y a 3 fois plus de couples qui divorcent chez les gens qui se sont rencontrés sur le net. Pas qu'ils se séparent, qu'ils divorcent. C'est-à-dire qu'ils ont cru qu'ils pouvaient aller très loin. Bon. Et le problème avec ces sites, c'est que vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un. Vous pouvez tout à fait remplir un formulaire qui vous dit, voilà, d'après ce que vous avez coché, vous avez tel profil et on a trouvé quelqu'un qui vous correspond parfaitement. Mais est-ce que correspondre parfaitement au profil de quelqu'un, ça suffit pour susciter l'amour? Est-ce qu'on tombe amoureux de quelqu'un qui vous ressemble absolument? Ou est-ce qu'on tombe amoureux de quelqu'un avec parfois, avec qui vous n'avez pas d'atome crochu a priori, avec qui vous êtes complémentaire?
Ouais. Pascal Lardelier.
Oui, alors c'est plus qu'une boutade. Je disais il y a 2 minutes qu'on connaît tous des gens qui se sont connus grâce à Internet et je crois qu'on va arriver sur une génération où on connaîtra des couples qui se sont séparés à cause d'Internet, précisément parce que quand on a mordu à cette espèce de toute puissance que nous offrent les sites de rencontres, d'hyper-rationalisation, de jeux, etc., c'est extrêmement difficile. Je crois qu'il faut au couple et aux 2 partenaires du couple beaucoup de maturité, puis d'amour peut-être finalement, pour se désinscrire et pouvoir accepter de tourner la page du net. Et ça confirme ce que disait Jean-François Marmion à l'instant.
Eh oui, Anne-Claire Terrizol, roman nous écrit « La différence principale entre les rencontres Internet et celle de la vraie vie réside dans la quasi-absence de temps pour se connaître. Hein. » Vous le disiez, on se rencontre vite, on consomme vite, au moindre écart par rapport aux idéaux, on se sépare. Une rencontre via des relations sociales en dur sont beaucoup plus subtiles.
Absolument, c'est un petit peu... Alors, l'écran a plusieurs écueils. C'est-à-dire qu'il faut être... à peu près parfait derrière un écran. C'est-à-dire qu'en même temps, on peut mentir, on se planque derrière, et en même temps, il faut très vite se dévoiler. Ça va très très vite. C'est-à-dire que derrière un écran, on va vous demander, voilà, tu fais quoi comme boulot, est-ce que t'es propriétaire, locataire, moi j'ai déjà entendu ça, grosse, petite, mince, etc. Pareil pour les garçons. Et à partir du moment où on ne va pas correspondre à tel ou tel critère, on peut être jeté comme ça, c'est et ça. Ne pas avoir le temps, ne pas avoir l'occasion
de s'exprimer. Alors dans la vraie vie, on aurait peut-être franchi ces étapes.
Dans
là,
la vraie vie, on aurait franchi cette étape-là. Et ce qui est extrêmement gênant, en fait, dans ces relations-là, c'est que on pose effectivement des critères objectifs, mais c'est pas parce que on va aimer tous les deux les betteraves, le chou-fleur, le ski, la planche à voile, qu'on va forcément tomber amoureux. D'ailleurs, on dit tomber amoureux. L'amour, c'est un accident, c'est un bel accident, mais c'est un accident. Et tous ces critères objectifs sont ne laissent pas de chance finalement, parce qu'il y a aussi tout ce qui est du domaine du non-dit, le pouvoir des mots derrière un écran, mais ce qui fait le charme de quelqu'un, ce qui fait le désir, Pascal Lardelier nous le dira sans doute mieux que moi, mais ce qui fait le désir, ça reste un mystère, ça reste un truc extraordinaire. Alors ça arrive que ça se passe avec des gens qu'on rencontre d'abord sur Internet, mais très honnêtement, beaucoup de gens qui se rencontrent dans la vraie vie d'abord n'ont a priori, objectivement et selon certains critères, absolument rien à faire ensemble au départ. Et c'est ce qui fait qu'ils tombent amoureux. C'est ce qui fait qu'ils ne peuvent pas expliquer pourquoi ils sont réellement amoureux. C'est quoi le désir? Enfin, je pense que ça pose aussi la question, qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que c'est le désir? Voilà.
Larry nous dit, l'amour 2.0 est-il encore l'amour d'une personne ou plutôt l'amour de tomber amoureux? Jean-François Marmion.
Mais on peut poser la question pour l'amour du 1.0, si j'ose dire. Est-ce que finalement, est-ce qu'on aime tomber amoureux ou est-ce qu'on aime vraiment quelqu'un dans la vraie vie déjà? Non, je pense qu'il faut pas réduire tout ça à une schématisation, une hyper-rationalisation, disait Pascal Lardelier tout de suite, une espèce de volonté de contrôle absolu de ce qui va nous arriver. Je veux absolument rencontrer telle personne pour telle relation. Le reste ne m'intéresse pas. Si vous faites ça, vous faites fausse route parce que vous fermez des portes et que par définition, dans la vraie vie, vous tombez amoureux de gens dont vous ne soupçonnez pas qu'il puisse se passer quelque chose. Je veux bien même témoigner à titre personnel. Un soir, j'étais dans un bar. Une femme s'est assise à côté de moi. J'ai été entreprenant, elle m'a giflé. Bon. 1 an et demi après, on se recroise. ça va beaucoup mieux. Et au bout de 3 mois, on planifiait notre mariage à Venise.
Oh, mais quelle belle histoire.
C'est pas beau, ça? Et si on lui avait dit à ce moment-là, au moment de la gifle,
c'est vrai,
tu vas tomber amoureuse de ce mec, vous aurez 2 enfants, oui, et tu vas vivre dans un village de Lyon de 300 habitants avec lui, elle aurait dit, mais ça va pas la tête. Plutôt m'arracher une dent sans anesthésie, c'est impossible, quoi. Et effectivement, si on avait coché les formulaires, on n'aurait jamais eu aucune occasion de se rencontrer, aucune envie.
Bon. C'est assez, en tout cas, convaincant, votre témoignage. Extrait du film américain, vous avez un message sorti en 98.
Tu es amoureuse.
Amoureuse? Non, non.
Oh, si. C'est vrai, je suis amoureuse de Franck. Nous vivons pratiquement ensemble avec Franck. Tu l'as rencontré où? Tiens, tu vois, je ne m'en souviens même plus. D'accord. Le jour de mon anniversaire, je suis allée sur le site 30 ans et plus, comme ça, juste pour voir. Et il était là. Et on s'est mis à bavarder.
Vous parliez de quoi?
Oh, de livres et de musique, de notre amour commun pour New York, des petites choses sans conséquences, des bouquets de crayons fraîchement taillés.
Oh, je te demande pardon?
Non, laisse tomber. On n'aborde jamais de sujets personnels. Je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas dans quel quartier il vit, ce qui fait que ce ne sera pas vraiment difficile pour moi d'arrêter de le voir puisque je ne le vois pas.
Anne-Claire Terrisol, un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre.
L'amour.
Ça va plus loin quand même que dans ce qu'on entend.
On
se livre plus,
absolument,
hein, sur Internet.
On se livre beaucoup sur Internet, mine de rien. On se livre beaucoup. Oui, parce qu'on est assez facilement, au départ en tout cas, en confiance derrière un écran. Donc on parle très rapidement à des gens qu'on ne connaît absolument pas. On peut se sentir des affinités extraordinaires.
Ouais.
On peut même passer à la phase téléphone ensuite, où ça peut très très bien fonctionner aussi. Effectivement, il y a un côté, quand on sait maîtriser l'outil, il y a un côté rassurant, c'est-à-dire j'ai quelqu'un qui me comprend, chacun se montre évidemment sous un jour
plutôt flatteur,
etc. Mm-hmm. Donc effectivement, ça peut être rassurant jusqu'à un certain point. C'est pour ça qu'il y a des gens d'ailleurs qui restent derrière l'écran pendant des mois, pendant des années, parce que ils ont l'impression, la peur d'être déçu, je pense, la peur d'être déçu.
Pascal Lardelier.
Oui, alors tout ce que vous venez de dire appelle toute une série de remarques. Bah, écoutez, dans un premier temps, c'est vrai que sur les sites de rencontres, on se livre à une textualité débridée et puis finalement, on se raconte beaucoup plus qu'on ne se rencontre. Hein. Et c'est vrai que ça a ouvert un immense espace de libre expression, de mise en mots, de mise en récit des personnes qui racontent leurs blessures, leurs espoirs, leurs fantasmes, leurs rêves, etc. Et donc, je crois que ça, c'est l'un des grands principes, en tout cas, de l'Internet, des sites de rencontre première génération. Alors c'est vrai que dans un premier temps, on a pensé qu'une histoire et une personne étaient réductibles à des mots, à des paroles et à ce qui s'échangeait. Et puis depuis quelques années, on a vu monter les applis et notamment Tinder. Et là, on est passé d'une personne qui serait réductible à des mots et à des récits à une personne qui est réductible finalement à sa photo et à des images. Donc c'est vrai que forcément, quelles que soient les potentialités de ces dispositifs, forcément, c'est réducteur par rapport à la vraie vie. Et puis, par rapport à une vraie histoire et par rapport à une vraie rencontre. Hein. Je crois que tout à l'heure, on me donnait beaucoup de responsabilités en disant que j'allais expliquer ce qu'est le désir. Je crois que l'amour, finalement, c'est être touché par quelqu'un. Mais touché, eh bien, au propre et au figuré. Et c'est vrai que derrière un écran, on ne peut pas se toucher. Donc, il faut se donner rendez-vous. Et puis, il faut voir si le feeling, et ça, c'est un grand principe qui est évoqué par les internautes qui draguent en ligne, il est là ou pas. Et puis, c'est vrai que ce sont des dispositifs, puisqu'on se raconte, très narcissisants. Et l'évolution des sites a fait que finalement, avec l'apparition des sites hyper segmentés, d'un marché de niche, eh bien finalement, on est passé d'une recherche de sa moitié à la recherche d'un double. Et c'est vrai que c'est là, et tout à l'heure, c'est ce que vous disiez tous les deux en studio, c'est là qu'il y a peut-être un problème, c'est qu'on a l'impression qu'on va marier
un miroir,
des CV. Ouais. Et c'est vrai que l'amour, ce sont des affinités socioculturelles, bien évidemment, c'est une endogamie, hein, c'est une grande loi sociologique, mais il y a quelque chose d'autre, il y a un frisson, un mystère, qui outrepasse, et Dieu merci, pourrait-on dire, eh bien le fait qu'on va simplement apparier des CV et des catégories socio-professionnelles.
Et l'amour 2.0, c'est cet après-midi dans La Tête au Carré.
Loin de moi tu roucoules, loin de toi je m'écroule, j'ai de la pluie qui me colle et des vagues qui me coulent. Avec le temps rien ne s'en va, avec le vent rien ne s'envole, avec le temps je suis resté. sur ton rocher. Loin de moi tu décolles, loin de toi je déconne, y'a la houle qui s'affole et des algues qui me foulent. Avec le temps rien ne s'en va, avec le vent rien ne s'envole. Avec le temps, je suis resté sur ton rocher, bien accroché sur ton rocher. Loin de moi tu roucoules, loin de toi je m'écroule. Y'a des filets qui m'isolent et des courants qui se défoulent. Avec le temps rien ne s'en va, avec le vent rien ne s'envole. Avec le temps je suis resté sur ton rocher, bien accroché sur ton rocher.
Roucoule, c'était Baz Baz.
Et c'est quoi alors ton type de mec idéal, hein, si t'en as un?
Qui est un homme, oui, plus grand que moi, mais ça c'est des détails physiques. Quelqu'un d'assez affirmé.
Ouais.
Mais pas non plus trop autoritaire. D'accord. Qui soit un petit peu...
Souple.
Souple, ouais. Et au niveau de la communication, qui soit assez open. Qui cache pas les trucs, et au dernier moment, il fissure, et tu sais pas ce qui t'arrive. Je veux bien m'en mettre en question, si l'autre personne m'aide aussi à m'en mettre en question. Et à ce moment-là, si elle accepte aussi que je lui dise... Je ne demande pas de changer intégralement, en général. C'est pour ça que ton profil, finalement, il correspondait parfaitement à...
Oui, c'est ça, ouais.
À ce que j'imaginais de type de garçon.
Et la taille, ça va?
La taille, ça marche.
Ouais. Ok, cool.
Voilà, rencontre au réel après le passage par le virtuel. C'est extrait d'un doc qui s'appelait Love Me Tinder. Et quel beau titre, hein, qui avait été diffusé en novembre 2014 sur France 4. Anne-Claire Terrizol et Jean-François Marmion pour le Cercle Psy. Pascal Lardelier en duplex de Dijon, professeur en sciences de l'information et de la communication, pour parler donc de l'amour 2.0. Anne-Claire Terrizol, cette question d'Olivia, quelle a été votre pire expérience sur un site de rencontre? Racontez-nous, puisque vous l'avez expérimenté, comment ça se passe alors?
Alors, il y en a plein, donc ça va du type...
Choisissez la meilleure.
Oh, il y en a une petite rigolote, il n'y a pas longtemps, je prends juste un café, parce qu'au départ, on y passe un peu plus de temps, il faut vraiment juste se dire, on commence par un café. Donc je prends un café, il y avait un petit chocolat avec le café, je mange mon chocolat, la personne qui était en face de moi me donne le sien, je lui dis non merci, et là, je m'entends rétorquer, ah oui, c'est vrai, c'est pas la peine, t'as l'air bien nourri. Bon,
ah,
donc là,
agréable.
Évidemment, je lui ai laissé payer le café. Bon, ça, c'est plutôt rigolo.
Fin de l'histoire.
Voilà, fin de l'histoire, évidemment. Fin de l'histoire. Et puis, il y a des trucs, voilà, il y a des trucs assez drôles. Le type avec qui vous parlez depuis 15 jours, 3 semaines, etc. Vous le rencontrez, voilà, à l'autre bout de Paris. Vous le trouvez pas mal, il vous trouve pas mal. Il est sympathique, tout va bien se passer. Donc, vous déballez toute votre vie.
Ah, oui.
Et le type, au dernier moment, vous dit, au fait, faut que je te dise quand même un truc. C'est que je suis avec quelqu'un, elle me jette toutes les 3 semaines, elle me reprend, elle me jette. Et là, elle vient de me reprendre, en fait. Donc, vous lui dites, mais qu'est-ce que je fais là? Donc, ça, c'est le type qui fait du stock. Au cas où, il fait du stock, il vous garde en stock, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut servir derrière. Ça aussi. Et des anecdotes comme ça, il y en a plein. Ouais. Ou alors, il y a le type qui, effectivement, fait un profil, je cherche un truc sérieux, etc., qui est assez sympathique, avec qui on finit par pas mal papoter, à qui on donne son numéro de téléphone, il vous appelle et il vous dit coucou, tu baises, pardon, bip,
coucou
voilà.
Ça va,
c'est coucou, ça. Coucou ça va, veux-tu que je vienne tout de suite? Bah non, on ne se connaît pas et voilà. Voilà.
Mais t'es donc, difficile aussi, hein.
Oui, je suis très difficile, c'est ça le problème.
Quelle honte. Donc ça n'est pas une traversée très simple. Hein,
c'est pas une traversée simple et je pense qu'il faut voilà, quand si on est vraiment quelqu'un qui est un peu désespéré avec l'amour, et souvent, parfois en tout cas, il y a des gens qui vont sur ces sites parce que évidemment dans la vraie vie, ils n'ont pas trouvé, c'est un peu la dernière chance pour eux.
C'est ça.
Et à partir du moment où on en est dans cet état d'esprit et où on suridéalise les choses, effectivement, on peut être extrêmement déçu.
Pascal Ardely, on vient beaucoup sur Internet justement en désespoir de cause.
Non, je pense pas. Non, il y a vraiment de tout. Je pense qu'on aime toujours comme une époque nous autorise à aimer. Et puis, notre époque, ce sont des technologies, ce sont des valeurs aussi. Mmh. Et à ce titre-là, je pense que non, il y a des gens qui sont tout à fait bien de leur personne. Alors, par contre, par rapport à ce que je voulais dire, ce qui vient d'être dit, je crois qu'effectivement, le dispositif de chatter, de draguer en ligne, c'est quelque chose de très désinhibant. Et c'est vrai que certaines personnes se retrouvant dans la vraie vie en face à face ont souvent du mal à trouver des rites d'interaction, des civilités qui soient effectivement acceptables socialement, d'où ce qu'on vient d'entendre là. Et puis surtout, on a une telle offre, quand on est sur Internet, on a une telle offre en profil, en personne que l'on peut potentiellement rencontrer, que finalement ça instaure une espèce d'utilitarisme, voire de zapping. Hein, et c'est vrai que les anecdotes se comptent à l'appel de gens qui prennent le samedi après-midi pour enchaîner les rendez-vous et pour voir avec laquelle de ces personnes elles passeront la soirée. Donc c'est vrai que il ne faut pas être trop moraliste vis-à-vis de tout ça. Il faut avoir un regard critique, bien sûr. Mais je pense qu'effectivement, ça va induire une perte des principes de sociabilité traditionnels. Et on vient de l'entendre à travers le témoignage de
Anne-Claire Terrisol. Anne-Claire, justement, il y a un message de Christine là, sur franceinter.fr qui va vous intéresser. Expérience vécue, nous écrit-elle, une belle histoire qui dure 2 mois, une rencontre qui se passe tout de suite très bien. Moi, je ne vais plus sur les sites, mais lui continue. Et du coup, il est toujours à la recherche du peut-être mieux. C'est comme du consommable. On a un produit, mais on peut sûrement en trouver un encore mieux. Finalement, cela met en danger et détruit totalement la confiance.
Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est le toujours plus, le toujours mieux. Et ça peut devenir extrêmement addictif. Parce qu'en plus, c'est plus... Il n'y a qu'une personne qui m'aime et qui me fait des compliments. La terre entière peut m'en faire. Et je peux toujours trouver mieux, trouver plus. Alors, je mettrai quand même un bémol. Parce que s'il y a une vraie histoire d'amour, je pense que là, ça peut effectivement tout balayer. Si on n'est pas forcément très fidèle de nature, on peut effectivement se laisser tenter par ce « d'un seul coup, je deviens le maître du monde ». La terre entière peut m'aimer.
Je voudrais juste vous lire la conclusion du mail de Christine. « Je ne vais plus sur les sites et j'ai rencontré quelqu'un dans la vraie vie. Ça fait du bien parce qu'il n'y a plus ce côté pervers du jetable.
Voilà, »
Donc l'histoire se termine bien.
Magnifique.
Jean-François Marmion.
Oui, mais puis l'amour, c'est pas ça. C'est pas « tiens, je voudrais toi, mais en mieux. » Je voudrais que tu changes, je voudrais que... Non, c'est je t'aime comme tu es. J'ai envie d'être avec toi comme tu es, je veux que ce soit toi et moi, je veux pas toi en mieux. Je veux pas une version 2.0 de toi, je te prends avec tes défauts si t'en as, qui n'en sont pas pour moi, etc. etc. Donc c'est pas l'idée d'aller toujours plus haut, plus fort. Là encore, dans la vraie vie, il faut pas imaginer qu'on va chercher sur ces sites la beauté intérieure de quelqu'un, voilà. On va escamoter le corps, on va chercher la beauté intérieure de quelqu'un et il n'y a que ça qui compte. Non, dans la vraie vie, vous allez rencontrer quelqu'un comme si vous passiez du noir et blanc à la couleur ou du muet au parlant. Quoi. Ça prend une autre dimension et vous avez quelqu'un en face de vous qui a une voix, qui a une gestuelle, qui a une façon de vous interrompre ou pas, de faire preuve d'humour ou pas, qui n'est pas du tout la même que par écrit. Vous rencontrez quelqu'un d'autre.
Absolument.
Qu'est-ce que ça change du point de vue du corps, justement, les relations 2.0 ?
Je voudrais pas qu'on aille sur ce site, sur ce genre de site, en voulant nier la dimension biologique qu'on a en nous, quoi. C'est-à-dire quand on rencontre quelqu'un, de toute façon, qu'on le veuille ou pas, on a une cascade de réactions chimiques, hormonales, qui fait que ça peut être possible avec quelqu'un ou pas. C'est Brassens, la bandaison, papa, ça ne se commande pas. C'est pareil pour les femmes, ça se commande pas. Des fois, ce serait possible, des fois, c'est absolument impossible. Même si on a rencontré quelqu'un qui a une fantastique beauté intérieure, ça se fait pas. On va pas se forcer, sinon c'est mal parti.
Et donc, ce rapport au corps, il change complètement aussi avec ses nouvelles habitudes?
On peut penser que c'est les ingrédients habituels de l'amour, mais qu'ils sont inversés. D'abord, on se rencontre en vrai, et puis après, on parle. Sur le net, c'est l'inverse. On parle d'abord, on se rencontre après. C'est les mêmes ingrédients, mais évidemment, pas dans le même ordre, et ça n'a pas le même impact si ça tourne mal. Il y a des gens qui sont beaucoup plus déçus si ça se passe mal en virtuel qu'en vrai, parce que dans le virtuel, ils ont fait des films. En vrai, on voit tout de suite.
Pascal Lardelier.
Oui, alors deux, trois choses suite à ce qui vient d'être dit. Dans un premier temps, cette espèce de course en avant, c'est le bovarisme qui est bien connu et de la littérature et des psys, hein, et qui consiste, comme Emma Bovary, à en permanence chercher mieux, sa vie en mieux. Hein. Et c'est vrai que beaucoup de personnes inscrites sur ces sites et qui manquent peut-être de modestie ou de maturité, ils vont essayer de trouver encore mieux, de trouver quelqu'un qui est un petit peu mieux que ce qu'ils ont rencontré. Et puis, on parlait de Brassens à l'instant, c'est un petit peu la chanson La Passante, hein, de Brassens. Et c'est vrai que finalement, cette femme qu'on voit passer, avec qui on aurait pu vivre quelque chose, et puis rien ne se fera, c'est la foule d'Edith Piaf. Et c'est vrai qu'il faut savoir, effectivement, quand on a rencontré quelqu'un, sur le net notamment, hein, et bien débrancher, tourner la page, je le disais tout à l'heure. Et ça, c'est pas évident au regard de la vertigineuse interchangeabilité des possibilités amoureuses que nous offre le net. Donc des millions de fiches. Et c'est vrai qu'il y a un effet de sidération, un effet de vertige. Et c'est pas évident, je pense, pour les couples actuels, et bien de résister à la tentation d'y revenir sans cesse.
Dominique nous écrit ce message. Une copine m'a inscrite sur Mythique. Il s'agit d'un véritable supermarché avec de vraies fausses étiquettes. À ma grande surprise, j'ai rencontré quand même quelqu'un que je n'aurais jamais pu connaître autrement. Milieu, goût très différent. Notre liaison a duré 5 ans, passionnant. J'ai décidé un jour de rompre parce que je trouvais que cet amour-là ne me satisfaisait plus. Je ne regrette rien. J'ai maintenant 68 ans, mais trouver un nouvel amour va être encore plus difficile. Mais heureusement, Internet permet quand même de beaux voyages, virtuels ou non.
Oui, c'est vrai, on peut faire de très beaux voyages virtuels. Si on est capable de rester dans le virtuel et de pas avoir d'un seul coup, justement, et j'y reviens, quand même cet appel du corps, oui, ça peut être bien. Mais il y a vraiment cette dimension, effectivement, corporelle qu'on ne peut absolument pas nier. Et là, sur Internet, on fait les choses, entre guillemets, à l'envers. Voilà. Alors que dans la vraie vie, la première attirance qu'on ait pour quelqu'un est physique, j'entends par là.
Et chimique, on le disait.
Elle est chimique, voilà. Ouais. Elle est chimique, hein. Il s'agit pas de, il est beau, il est pas beau. Voilà. Et le problème, c'est que quand on inverse, y a un truc qui fonctionne très rarement. Voilà.
Alabama Song, les Doors, et on se retrouve juste après. Poursuivez vos messages, ça nous intéresse de vous lire avec vos témoignages, franceinter.fr.
Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die.
et les Doors.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Elle est en kiosque, la revue Le Cercle Psy, Jean-François Marmion.
Mais j'espère bien.
Voilà, pour parler entre autres donc de l'amour 2.0, puis également des rythmes de l'enfant. Il y a d'autres sujets autour du sommeil, de l'école et des loisirs. Mais nous parlons donc des rencontres sur Internet avec Pascal Lardelier à Dijon, Anne-Claire Terrizol et Jean-François Marmion. Et vos messages nombreux sur le site de l'émission. Il y a Antoine qui nous écrit « L'amour n'est ni magique, ni irrationnel, ni mystérieux. Il est rationnel et pas mal de sociologues le montrent. Les couples qui divorcent sont des couples qui ne partagent pas de points communs et dans une plus grande marge, qui ne partagent pas les mêmes visions en ce qui concerne la gestion de l'argent et des enfants. Donc l'utilisation de critères est certes peut-être pas romantique, mais quand même très efficace. Ça contredit un petit peu ce que vous nous disiez tout à l'heure, Jean-François.
Ça le contredit complètement, mais je maintiens ce que je dis. C'est mon opinion et je la partage. Ouais. Non, mais c'est difficile. On peut pas réduire l'être humain à un algorithme avec un formulaire. On n'est pas des formulaires, quoi. On est tous uniques, imprévisibles, imparfaits, complexe, irrationnel. Les algorithmes peuvent se marier entre eux, pas des êtres humains. Pas des êtres humains de cette façon-là, quoi. Je suis désolé, c'est pas...
Pascal Lardelier.
Oui, je pense quand même, et pour être en raccord avec votre auditeur, que l'évolution des sites de rencontres, depuis une vingtaine d'années, depuis une quinzaine d'années que je regarde tout ça avec attention, elle est incroyablement et impitoyablement sociologique. Ce que je veux dire, c'est qu'on est passé de sites généralistes, le premier Mythique avant 2006, qui était une espèce de grande plateforme où on rencontrait à peu près tout le monde, à une évolution de niche qui propose finalement aux gens, effectivement, de se retrouver en fonction de catégories socio-professionnelles, de hobbies, de valeurs, les bio, les végétariens, etc. Et c'est vrai que quand même, oui, l'amour, ce sont des hormones, c'est un grand frisson, mais en première lecture, quoi qu'en pense Phèdre devant le bel Hippolyte, c'est quand même aussi, et ça contredit pas ce que je disais tout à l'heure, ce sont aussi quand même des affinités socio-culturelles qui vont entrer en accord et qui vont s'accorder. C'est vraiment une des grandes leçons de l'évolution de ces sites, quand même.
L'histoire d'une relation amoureuse et passionnée, atypique évidemment, celle au cœur du scénario du film Heure, avec cet homme incarné par Joaquin Phoenix et qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle. Voici un extrait du film.
C'est bizarre, non, que j'ai des liens avec un système. Non, ça va, c'est bizarre.
Non, je crois pas, non, c'est... En fait, la femme que je vois, Samantha, dont je t'ai parlé, je ne t'ai rien dit, mais c'est... c'est un système aussi.
C'est vrai. Tu fréquentes un système, qu'est-ce que ça te fait?
C'est génial, en fait.
Ouais.
Je me sens très très proche d'elle, comme quand je parle avec elle. C'est comme si elle était avec moi, tu vois. Et comme quand on est couché le soir, les lumières éteintes et qu'on se blottit, je me sens blotti.
Non, attends. Vous faites l'amour?
Oui, ben, d'une certaine manière. Oui, et tu sais, elle m'excite beaucoup. Et je l'excite aussi, oui, bon, enfin, à moins qu'elle fasse semblant, je veux dire.
Je pense que quiconque fait l'amour avec toi fait probablement semblant, alors.
Oui. C'est vrai.
Est-ce que t'es amoureux?
Ça fait de moi une espèce de monstre.
Non. Non, je crois que toute personne amoureuse est un monstre.
Voilà, il faut voir ce film avec la voix de Scarlett Johansson et cette histoire évidemment qui va être compliquée pour cette intelligence artificielle qui va retrouver justement les siens, puisqu'apparemment le rythme humain était beaucoup trop lent pour elle. Est-ce que, Pascal Lardelier, là on est vraiment dans cet exemple à un autre stade, mais est-ce qu'on pourrait imaginer dans le futur tomber amoureux de robots humanoïdes ou d'intelligence totalement virtuelle là pour le coup ?
Écoutez, je suis pas devin. On peut faire un tout petit peu de prospective. Alors d'ailleurs, tout à l'heure, en aparté, j'évoquais le bovarisme. Et puis, ce film donne une illustration très concrète de la cristallisation. Hein, c'est-à-dire cette espèce de sublimation de quelque chose qui est une abstraction, finalement. Oui. Alors, je sais pas, je saurais pas vous répondre. On a beaucoup parlé de sociologie, on a parlé d'hormones et de chimie.
Oui.
Finalement, est-ce que il faudrait peut-être relire Lacan et tous les grands auteurs qui ont écrit sur et je ne suis pas psy, mais c'est vrai que je ne sais pas, vraiment, je sèche là, je suis désolé.
Bon, Jean-François Marmion,
moi, je pense
on voit que nos relations avec les robots changent aussi aujourd'hui.
Je pense que c'est tout à fait possible.
Quand même aux machines.
C'est tout à fait possible, et c'est même, je pense que c'est déjà le cas, il y a des robots qui sont conçus comme ça, on travaille à améliorer des robots pour qu'ils réagissent à nos émotions.
Ouais.
On peut avoir le design qu'on veut, et je pense tout à fait qu'il y a des gens qui sont déjà amoureux de leurs robots. Oui, oui, pas beaucoup, mais ça vient. Mais vous savez, puisqu'on est dans la prospective, j'ai lu récemment que d'ici 2040, 70% des couples pourraient s'être rencontrés sur Internet. C'est ce qu'ils disent. Eh oui. Moi, je suis un peu sceptique. Ça peut être beaucoup plus, ça peut être beaucoup moins. Mais de toute façon, d'ici 2040, le net sera méconnaissable. Donc, ouais. on peut pas préjuger.
Message de Thierry. Nous sommes rencontrés il y a 7 ans sur un site. Mon pseudo atypique a été déterminant pour me démarquer. Ce qui a attiré son attention et déclenché la rencontre. Je suis arrivé chez elle 4 mois plus tard. Et depuis, tout est parfait.
C'est magnifique.
C'est bien. Et justement, il y a des enquêtes là-dessus sur les pseudos. Les femmes préfèrent les pseudos d'hommes qui indiquent qu'ils sont intelligents. Les hommes préfèrent les pseudos de femmes qui indiquent qu'elles sont jolies.
Ah tiens, c'est marrant. Ah, ça.
C'est des stéréotypes qu'on trouve aussi dans les mensonges. Il y a un internaute sur deux aux États-Unis qui ment sur son information de profil. Et les femmes mentent plutôt sur leur physique. Et les hommes mentent plutôt sur leur situation financière.
C'est très intéressant aussi les photos. Parce que la plupart du temps, les hommes mettent beaucoup de photos. Tous les hommes sont sportifs. Moi, j'ai parlé avec des hommes. Je pense que ils ne travaillent pas et n'ont jamais travaillé parce qu'ils sont sportifs de haute compétition dans plusieurs disciplines. voilà. Donc c'est ça. Certains mettent les grosses voitures, les muscles aussi, le torse, le tatouage, etc. Voilà. Après, les femmes font pareil, je crois, de leur côté. La bouche en cœur, la poitrine en avant, etc. C'est très important. Mais ça marche pas forcément.
Pascal Lardelier.
Oui, dès 2004, dans le cœur net, j'appelais ça le lifting identitaire. La propension qu'ont tous les internautes sur Internet et sur le net sentimental à se voir quand même un tout petit peu plus beau qu'ils ne sont. Et malheureusement, ça renforce souvent les stéréotypes de genre. C'est-à-dire que les femmes exacerbaient, en tout cas dans les études que j'ai pu mener, le côté féminine, sensuelle, douce, etc. Et les hommes, effectivement, ça vient d'être dit, position sociale affirmée, physique avenant, grand, etc., etc. Le lifting identitaire.
Mireille nous dit « L'amour 2.0, ça marche. J'ai rencontré mon compagnon sur le net. Nous sommes heureux depuis 10 ans. Le net nous a permis d'entrer en contact à un moment où nous étions très pris par notre travail et nos enfants. Ensuite, c'est le déroulement d'une histoire d'amour classique. On se rencontre, on se séduit, on tombe amoureux, on s'engage dans une histoire commune. Nous n'avons plus besoin d'un site de rencontre, mais on se félicite chaque jour que de tels sites existent. »
Oui, ça permet à certains de se rencontrer en vrai.
Alors n'oublions pas quand même que ces sites ne sont pas faits par des philanthropes. C'est des entreprises. Et les sites ont intérêt à ce que les gens ne trouvent pas. Il faut que quelques-uns trouvent pour servir de tête de gondole. Quand vous voyez, ça marche, faites comme eux. Mais ils ont intérêt à ce que les autres ne trouvent pas. Parce qu'un couple qui se forme, c'est deux clients de moins.
Ouais. Pascal Lardelier, pour terminer, le papillonnage numériquement assisté, ça c'est un de vos concepts, hein?
Oui, bah effectivement, ça reprend un petit peu tout ce qu'on dit durant tout ce qu'on a pu dire. Surtout, il faut remettre tout ceci en perspective. Toutes les sociétés ont été entremetteuses et toutes les sociétés, des marieuses aux notaires, des rallyes au bal, toutes les sociétés ont eu des personnes ou des contextes qui permettaient effectivement de faire que la rencontre amoureuse n'était pas si incidente que ça. Je vous signale d'ailleurs que le film que vous avez, dont vous avez passé un extrait tout à l'heure, vous avez un message, c'est une reprise d'un film d'Ern Lubitsch, The Shop Around the Corner, de 1940 à peu près, où Clara déjà recevait des lettres en poste restante de quelqu'un qui était amoureux d'elle. Donc vous voyez, finalement, on croit qu'avec le net, les choses sont nouvelles, mais on ne fait que passer bien évidemment de l'artisanat à l'industrie, au niveau de la puissance d'Internet, mais toutes les sociétés vraiment ont essayé d'appareiller les cœurs solitaires afin de perpétuer la société via la famille et les couples.
Allez, pour conclure, attention également aux arnaques, parce qu'elles existent évidemment sur ces sites. Il y a un témoignage dans le Cercle Psy de Sylvie, 40 ans, qui était seule, pourtant très rationnelle, très scientifique. Ouais. Et puis elle décrit à quel point elle s'est laissée embarquer dans une histoire invraisemblable, avec derrière un site basé en Afrique, je crois, de personnes qui essayaient de prendre contact avec elle. Donc soyez quand même prudents, amusez-vous bien, soyez amoureux, c'est le principal. Et lisez le Cercle Psy pour ce sujet sur l'amour 2.0. Pascal Lardelier, vous avez publié Les Réseaux du Cœur, Sexe, Amour et Séduction sur le net. Et puis plus récemment, cette année, Génération 3.0, vous allez encore plus loin, mais là, c'est pas sur l'amour. Enfants et ados à l'ère des cultures numérisées chez EMS. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci.
Et merci aux équipes de France Bleu Bourgogne pour ce duplex depuis Dijon.